Son nom n'est pas dans les livres de vie. C'est en sens que Thiérégène peut dire ça. Et c'est bien évident que ça ne veut pas dire que la réprobation est un acte positif de Dieu. Et que c'est lui-même qui refuse la grâce. Et c'est ça que saint Thomas veut montrer. Il est en puissance, il reste toujours en puissance, parce que Jésus est mort pour tous les hommes. Donc il est la tête de tous les hommes. Mais il est la tête de tous les hommes selon cinq modalités de vertu. Et ça, ce matin-là, c'est très beau, ça. C'est extrêmement beau. Alors, vous allez me poser la question, l'espérance ne fait pas une modalité particulière, hein, vous voyez. Où est-ce que vous voulez situer l'essentiel? Il y a quand même l'espérance. Saint Thomas, vous voyez l'espérance, ça existe. Donc, il devrait y avoir un 2 bis. Hein, ceux qui sont unis avec l'espérance. Puisque l'espérance informe existe, il peut y avoir quelqu'un qui a péché, il a perdu la charité, il garde la foi, il peut aussi avoir perdu l'espérance, il peut garder l'espérance. Et donc il y a une modalité particulière, pourquoi saint Thomas, en théologien, a oublié l'espérance? Qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Comment l'espérance ne structure pas la tête par rapport au virtus vis-à-vis des membres. Hein? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui va nous donner la réponse?
L'espérance est liée au devenir.
Qu'est-ce qu'il y a?
L'espérance est liée au devenir de l'ange.
Mais alors? Tandis que ça, c'est la structure.
L'espérance est structure, hein, parce qu'on ne la retrouve pas aussi.
Ah oui, mais la foi non plus.
C'est la foi, mais la vision.
Ah oui, c'est la vision, c'est la vision. Oui, donc vous touchez un peu, mais c'est pas très fort.
C'est pas parce que l'espérance, dès qu'on a la foi en forme, nécessairement on a la foi.
Non. Il peut y avoir quelqu'un qui a perdu l'espérance et qui garde la foi.
Oui, c'est pas le même cas que la foi.
Oui, oui, mais je crois que c'est quand même intéressant, ça posait le problème, vous voyez, comment, c'est pour mieux comprendre la manière dont saint Thomas structure la relation tête-membre. C'est ça qui est intéressant. Tête, membre. Il y a la tête et puis les membres. Et le lien de la tête et des membres, il la structure de cette manière-là. Et il ne pense pas à l'espérance. Pourquoi? Il y a quelque chose de juste dans votre question du devenir. C'est pas tout à fait ça, je crois.
Oui. C'est parce que c'est côté affectif.
Oui, mais la charité est affective.
Non, c'est le même.
Oui, mais c'est pas la charité, c'est autre chose. Hein. Je peux avoir perdu la charité, garder l'espérance. Oui.
Parce que c'est deux problèmes différents. L'espérance, c'est la jouissance de Dieu. Hein. Tandis que le tel des membres, c'est...
Oui, est-ce que c'est pas parce que la question de la puissance et de la vie, au fond, ici, il livre ses batteries. Je crois. Il livre ses batteries quand il prend cette dernière... il y a là quelque chose qui serait très intéressant à voir, c'est la question de la division. Vous voyez, là, on divise une division organique. C'est une division organique de la tête et des membres. Hein. C'est une coupe histologique, théologique. Quel est votre lien avec le Christ? Quel est votre lien de la tête au Christ, comme membre vis-à-vis du Christ? Ah, vous êtes dans la gloire. Mais très bien, votre lien en Christ est parfait, merveilleux. Vous n'êtes pas dans la gloire, mais vous êtes dans la charité. Oui, degré d'actualité. Alors, il me semble que si je prends ce côté puissance et acte, vous voyez, le degré d'actualité, évidemment, l'espérance. C'est un peu plus, mais au fond, c'est la même chose. Si je n'ai pas la charité, je ne suis pas pleinement uni au Christ, même si j'ai l'espérance. Ce sont deux attentes. Alors, on prend la foi, parce que la foi, c'est toujours plus connaissable, c'est du côté de la connaissance. Et les degrés se prennent plus du côté de la connaissance. Alors, je peux dire, c'est parce que justement, l'espérance est un devenir, ce que vous disiez, mais je crois que c'est parce que la foi est l'espérance. Et alors, il y a quelque chose d'analogue, c'est très semblable, foi et espérance, quand la charité n'est pas là. Le gros point, c'est l'union avec la charité. parce que ça, c'est une union plénière de vitalité avec le Christ. Je vis du Christ par la charité, par la foi et par l'espérance. Si je n'ai pas la charité, je suis en attente.
Oui. Est-ce que l'espérance informe est un don de la grâce?
Oui.
Par rapport à la foi?
Oui. C'est un don de plus. L'habitus.
C'est un don de la grâce actuelle ou de la grâce
actuelle? Ah, c'est un don qui est de la grâce. C'est de la grâce actuelle, puisque la grâce habituelle n'y est plus. Mais c'est un cas très particulier. C'est que, de fait, la charité peut disparaître avec la grâce. Demeure la foi et l'espérance. Il faut un acte particulier contre la foi, contre l'espérance, pour perdre la foi et l'espérance. Chez un pécheur, vous voyez, quelqu'un qui pêche par faiblesse, hein. La faiblesse, quelqu'un qui perd la charité parce que par faiblesse. Il garde la foi, il garde l'espérance. Mais il garde la foi et l'espérance informe. Et alors, au point de vue état, et je crois que c'est ça, la coupe, c'est pour ça que je dis une coupe histologique, la coupe histologique par rapport au Christ, on a une relation toute semblable au point de vue de la foi et de l'espérance. Le gros point, c'est la charité. Vous voyez, c'est ça. Et l'espérance, alors oui, c'est sûr, on peut le mettre en plus, ça fait un lien un peu plus. T'as un lien de plus si vous avez la foi et l'espérance. Mais au fond, le gros point, c'est la charité. Alors, si la foi n'est pas là, vous êtes en attente, l'espérance, en puissance, un jour vous serez en acte. Le point délicat, c'est qu'on reste en puissance tout le temps, même en enfer.
Dans les armées,
on n'est plus dans les enfers, mais si vous voulez, on n'est plus en puissance, parce qu'on ne sera jamais en acte. Vous voyez, mais la nature humaine, radicalement, métaphysiquement, demeure toujours. Autrement, il n'y aurait pas de regret. Vous voyez, si vous supprimez complètement, là, il n'y aurait pas de regret. Donc, l'état de puissance, il n'est plus en puissance au sens où il ne peut pas passer à l'acte. Alors, à ce point de vue-là, il n'est plus, mais il est radicalement en puissance. C'est la puissance prochaine, la puissance prochaine. Ici, on peut dire, ici est en puissance prochaine vis-à-vis de l'acte. Ici, s'il ne passe jamais à l'acte, il est dans un état d'opposition, le péché mortel.
S'il y a péché contre la foi, peut-il demeurer l'espérance informe?
Non, jamais. L'espérance ne peut demeurer que s'il y a la foi, et la foi peut demeurer sans l'espérance et sans la charité. C'est pour ça que la foi est radicale. Oui. Bon. Le Christ est-il tête des anges? L'apôtre écrit aux Colossiens, il est la tête de toute principauté et de toute puissance. Or, ceci vaut bien pour les anges. Le Christ est donc tête des anges. Là où il y a un seul corps, il faut nécessairement placer une seule tête. Vous voyez, la reprise de la question de la multiplicité des têtes. Et alors ici, dans un langage propre, là où il y a un corps, il ne peut y avoir qu'une tête. Dans un langage métaphorique, là où il y a un corps, il peut y avoir plusieurs têtes. Et deux propositions, c'est très très joli du reste. Là où il y a un seul corps, il faut nécessairement placer une seule tête. Or, par analogie, alors toujours la même chose, unumotem corpus similitudinarie dicitur, or, par analogie, nous appelons corps une multitude ordonnée dans l'unité. Alors, analogie métaphorique. Nous appelons corps une multitude ordonnée dans l'unité, selon des activités et des fonctions distinctes. Et il est manifeste que les hommes et les anges sont ordonnés à une seule fin, qui est la gloire de la divine béatitude. Le corps mystique de l'Église ne se compose donc pas seulement des hommes, mais aussi des anges. De toute cette multitude, le Christ est la tête. Il est plus près de Dieu, en effet, et reçoit ses dons avec une plus entière plénitude. que les hommes et même que les anges. Et en outre, les anges aussi bien que les hommes reçoivent son influence. Vous voyez, saint Thomas reprend ici les trois aspects de la tête, hein, mais un peu d'une façon un peu différente. Donc c'est intéressant à noter. Donc, de toute cette multitude, les anges et les hommes, de tout le Christ est la tête. Alors vous avez les trois aspects. Il est plus près de Dieu, l'ordre. Il est plus près de la source. Et en effet, reçoit ses dons avec une plus entière plénitude, la perfection. Et même que les anges, bon, en outre, les anges, aussi bien que les hommes, reçoivent son influence, la virtus. Il est écrit en effet dans l'Épître aux Éphésiens que Dieu le Père l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Le Christ n'est donc pas seulement tête des hommes, mais aussi des anges. Et c'est pourquoi nous disons dans saint Matthieu, des anges s'approchèrent et le servaient. Facile à comprendre. Mais ça donne une ampleur nouvelle, vous voyez ? C'est ça qui est intéressant à voir. Ça donne une ampleur nouvelle à cette question tête. Et l'aspect similitude devient plus grand. Donc l'aspect métaphorique augmente. Quand je dis que Dieu, le Christ est tête de tous les hommes et de tous les anges. Alors ça sera intéressant à voir. Quelle différence voyez-vous au point de vue de la similitude ? Par analogie, si je mets tête, les trois, alors tête des hommes, et on a vu là la coupe histologique, tête des hommes, le lien entre la tête et les membres, la relation entre la tête et les membres, et ici je mets tête des anges. Quelle différence y a-t-il entre tête des hommes et tête des anges au point de vue analogie métaphorique ? La coupe histologique. Qu'est-ce que vous mettez ici ? Les anges, ils sont ici. Ce qu'ils ont déjà choisi, hein, c'est déjà fait. Mais il n'y a pas de but de devenir. Donc ils sont uniquement là. Et c'est par là qu'il y a quelque chose de commun. Vous voyez ? Donc il est pleinement tête des anges et des hommes. Pleinement pour les anges, parce que c'est du point de vue de la gloire. Donc, c'est la gloire asymptoaste. C'est la relation directe. C'est pour ça que je dis, c'est la même coupe, tête, membre. Et alors, dans les membres, vous avez les hommes. Et théologiquement, on a d'abord traité ça. Puis les anges. Vous voyez bien, c'est un phénomène d'extension.
Est-ce que c'est en tant que Dieu qui les aime ?
C'est un phénomène d'extension. Quoi ? Priorité, perfection, virtu. Vis-à-vis des anges, priorité. Il a une grâce plus grande. Perfection, une plénitude plus profonde. Virtus, la différence.
Mais si tout ce domaine-là regarde un peu la même politique, la tête, c'est la
tête. Oui, c'est la tête. Les rois. C'est ce qu'on dira ordinairement, le Christ est roi des anges et père des hommes, et tête recouvrée. Il est tête. Vous voyez, c'est là où vous touchez bien que c'est une analogie métaphorique. Parce que c'est une question d'extension. Or, le point de vue de l'analogie métaphorique peut très bien être uniquement une question d'extension. Oui, si c'était une analogie propre, ça n'irait pas. Mais comme c'est une analogie métaphorique, je peux le faire. Oui. Parce qu'une analogie propre, l'extension ne suffit pas. Mais vous verrez tout de suite la différence. C'est comme vis-à-vis de nous, Jésus joue le rôle de Père. Il est Père de notre grâce. Il n'est pas le Père de la grâce. Mais dans la rôle de la tête, n'est pas impliqué ça. La tête ne donne les manches, n'est pas Père des membres. Oui, c'est pour ça que j'ai dit cette coupe, elle est très importante. Elle nous fait comprendre comment je peux vis-à-vis des membres, les hommes et les anges. Et c'est une question d'extension, tout simplement. Mais les trois aspects de la tête qu'on avait donnés jouent par rapport aux anges. Ordre, perfection, vertu.
Quelle est la causalité du Christ par rapport à la grâce des anges ?
Causalité exemplaire, perfection, causalité efficiente pour le gouvernement. Il gouverne les anges. Et donc, vous avez les choses. Mais alors, évidemment, la virtus est moins forte pour les anges. Pour nous, elle agit plus profondément. C'est pour ça que je dis extension. Oui, c'est du côté de l'extension. C'est une virtus qui s'est formée.
Parce que dans l'article 1, quand il dit que la grâce du Christ, le Christ, elle a la puissance d'influer la grâce dans tous les membres de l'Église. Oui. Parce que là, on ne regarde pas comme la source, donc la cause de la grâce. Et donc, comme cause de la grâce, il est cause tant de la grâce des hommes.
Instrumental.
Non, en tant qu'homme, mais pas le communicatif, en tant que père.
Il est cause instrumental.
En tant qu'homme.
Dans son humanité, par son humanité, c'est sûr.
Est-ce que c'est le Christ, c'est la personne du Christ qui est tête de l'Église, ou est-ce que c'est l'humanité du Christ?
C'est la question qui est posée, ça. On a dit que c'était les deux.
C'est ça.
On peut pas séparer. C'est la même chose pour les anges.
En tant que personne, il n'y a pas seulement l'aspect d'extension. De la grâce, mais il y a aussi
extension à cause. Mais c'est pour préciser. Il ne s'agit pas d'une analogie propre. Il s'agit d'une analogie métaphorique. L'analogie métaphorique peut s'étendre. C'est le cas de cette vie. Oui. Ça, vous voyez. C'est pour ça que je dis c'est un phénomène d'extension qui se prend du côté de la virtus. La virtus vis-à-vis des anges, la vertu du Christ. Et de l'ordre du gouvernement. Et pas du tout une virtus qui impliquerait une éducation. Le Christ n'éduque pas les hommes. Encore plus profondément.
Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de recréation des anges dans le Christ. Il n'y a pas de recréation des anges dans le Christ.
Non, non, pas.
Oui. La grâce est bien plus.
Oui, c'est pour ça que je dis les pères, les vignes. Tandis que vis-à-vis des anges, il n'y a que le point de vue du gouvernement. Vis-à-vis de nous, il y a une paternité.
Il y a comme une recréation dans les anges.
Non.
En tant qu'il soit, il n'y a pas de.
Non, c'est pas le Christ qui est cause instrumentale de leur recréation. Il n'est que cause exemplaire. Il demeure cause exemplaire. Il demeure la plénitude de modèle de la grâce et il demeure celui qui influe. Mais une influence du côté du gouvernement et pas du côté éducatif.
Le fait qu'on retrouve les mêmes trois ou quatre distinctions sur la tête dans les commentaires des évêques, dans le texte, ça veut déjà nous dire que c'est métaphorique qu'on retrouve.
Oui, oui, mais c'est. Venez, c'est sûr, vous retrouvez diversement cette affirmation de la tête, mais ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont saint Thomas, dans cette lecture de l'Écriture, ramène tous ces rôles de la tête à ces différents aspects. Il montre, il est tête en premier lieu, ça c'est évident, la révélation montre en premier lieu que Jésus est tête des hommes, du corps mystique. Mais comme il est vis-à-vis des anges, principe, chef, roi, on peut dire qu'il est tête. Parce que, analogie métaphorique.
Oui. De même que métaphoriquement, on peut dire que Dieu est la tête des têtes des hommes. Mais de manière très éloignée, là, je ne connais pas le même corps avec Dieu, c'est avec le Christ, c'est le même corps avec la tête.
Oui, mais c'est sûr que vous dites que Dieu est tête.
Il est tête de Christ.
Oui, il est tête de Christ. Vous voyez,
parce que le Christ
tête des hommes.
Parce qu'il ne fait pas même corps avec la Trinité. Le Christ fait même corps.
Oui. ça que l'analogie joue. Tandis que de l'autre côté,
je suppose qu'on soit premier dans le même genre.
Oui, je crois. Premier dans le même genre.
Plus qu'un genre. Hein.
Oui, un genre, une analogie. Genre. Très, très, très souple. Cinquième article. La grâce du Christ possède comme tête de l'Église est-elle identique à sa grâce habituelle reçue par lui à titre personnel? C'est un article très important, ça. Très important. Parce que vous voyez, ça va être le, par rapport à ce qui a été dit précédemment, le lien, le nœud. Allez. Alors, cependant, il est écrit dans Saint Jean, de sa plénitude nous avons tous reçu. Or, c'est parce que nous recevons de lui que le Christ est notre tête. Écoutez ça aux anges. C'est écoutez, vous savez, comme caput nosum, connaissez, abeo accipimus. Hein, accipimus. Hein, oui, mais c'est le 7 contre 1, ne vous inquiétez pas. Or, c'est parce que nous recevons de lui que le Christ est notre tête. Il est donc aussi notre tête parce qu'il a possédé la plénitude de la grâce. Donc ça devrait reprendre. Mais si le Christ a possédé la plénitude de la grâce, c'est que la grâce qui lui a été donnée à titre personnel était parfaite en lui, ainsi que nous l'avons déjà noté. Dès lors, c'est par sa grâce personnelle que le Christ est notre tête, et par conséquent sa grâce capitale ne diffère pas de sa grâce personnelle. Bien évident, il n'y a pas deux grâces différentes. Hein. Alors, corps de l'article. Aucun être n'agit qu'autant qu'il est en acte. Oui, principe philosophique de sagesse philosophique. Que ça fait moi ce sens. Hein. Aucun être n'agit qu'autant qu'il est en acte. Ça, c'est pas la foi qui me dit ça. Hein. Donc c'est la métaphysique. C'est l'habitus acquis de sagesse. Et si je n'ai pas l'habitus acquis de sagesse, l'habitus infus sagesse. Aucun être n'agit qu'autant qu'il est en acte, d'où il suit que le même acte est à la fois pour un être raison de son actualité et de son agir. C'est intéressant au point de vue de la métaphysique de l'acte. Hein. D'où il suit que le même acte est à la fois un être raison et pour un être raison de son actualité et raison de son agir. Ainsi, c'est la même chaleur qui fait que le feu est chaud et qu'il chauffe. Pour autant, l'acte qui donne à un être son actualité n'est pas toujours principe suffisant d'activité au dehors. Étant donné en effet que l'agent doit être supérieur au patient, ainsi que le remarquent saint Augustin et Aristote. C'est extraordinaire, saint Augustin et Aristote qui se donnent la main là. C'est rare, hein, mais c'est bien ça. Et étant donné en effet que l'agent doit être supérieur au patient, ainsi que le remarquent saint Augustin et Aristote, il en résulte que celui qui exerce une activité sur les autres doit être en acte d'une manière éminente. Or, nous avons vu que l'âme du Christ possède une grâce sans égale. En raison donc de cette supériorité de sa grâce, il lui revient de la faire dériver vers les autres. Et c'est précisément en quoi consiste la grâce capitale. Par conséquent, la grâce personnelle qui justifie l'âme du Christ est bien essentiellement la même que celle qui lui permet d'être tête de l'Église et de justifier les autres. Il n'y a entre elles qu'une distinction de raison. Secundum rationem. Alors il dit distinction de considération, de distinction conceptuelle. Hein? Saint Thomas, secundum et gratia ius, secundum comme est caput ecclesiae, justificans alios, differt tamen secundum rationem. selon leur intelligibilité, selon leur raison. Quoi ? Non, c'est plus. C'est plus. C'est selon leur raison. C'est que la grâce personnelle dit la grâce qui sanctifie le Christ, et la grâce tête dit la grâce source par rapport aux autres. Donc il y a une distinction de raison. Et c'est pour ça que saint Thomas souligne dans le corps de l'article, ça c'est une précision intéressante, qu'au fond, la grâce capitale précise que la grâce personnelle domine éminemment toutes les autres grâces. Donc je le redis. Voyez, au fond, prenez un peu le. Rappelez-vous, sous-jacent à ça, je crois, sous-jacent à ça, il y a ce fameux principe qu'Aristote donne, que seule une forme parfaite peut être source pour les autres. C'est la question de la perfection. Il faut posséder parfaitement une forme pour que cette forme puisse être source efficace pour les autres. Si la forme n'est pas possédée d'une façon parfaite, elle ne peut pas être source. Oui.
À propos du secondum rationnel, le bien, leur bien fait partie de la raison bien de se communiquer, mais pas oui, là, c'est pas une raison. Ça peut faire partie de la raison de la grâce capitale de se communiquer aussi.
La raison de la grâce personnelle n'implique pas nécessairement la grâce capitale. Et la grâce capitale ajoute quelque chose de plus, d'être par rapport aux autres source. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Mais substantiellement, essentiellement, c'est la même grâce. Il n'y a pas deux grâces différentes. Substantiellement, c'est la même grâce. Mais secundum rationnel, c'est différent. Alors voyons tout de suite.
Mais le bien, c'est pas la raison de bien de se communiquer. Mais vu ça à propos de.
Mais c'est pas la grâce.
La grâce,
c'est
le bien en
Christ. Ah non, c'est pas la même chose. Ah non, je ne vois pas votre objection. Oui, mais non, faites attention. La grâce n'est pas le bien. C'est la sainteté du Christ. Évidemment, c'est son bien. Mais c'est pas directement, je ne peux pas dire que tout le raisonnement sur le bien regarde le point de la grâce. Le raisonnement que saint Thomas a pris, c'est que nous ratons boni, il l'a fait par rapport à Dieu. Pas par rapport à la grâce. La grâce est une participation de la nature divine. Si la grâce est une participation de la nature divine, je ne peux pas, par rapport à la participation du bien, faire le raisonnement sur la raison. Vous voyez la question, hein, j'ai l'impression que personne ne peut. Le raisonnement de saint Thomas. En disant ratio boni implique la communication. Or, Dieu est souverainement bon, donc il se communique. Je préfère le même raisonnement par rapport à la grâce. La raison du bien, c'est de se communiquer. Or, la grâce est un bien, donc elle doit se communiquer. Donc, il n'y a pas de distinction des raisons. Alors, vous voyez, petit sophisme. Le sophisme consiste à dire la ratio boni se communique quand elle regarde le bien comme tel et non pas la participation du bien. Or, la grâce est une participation à la bonté de Dieu, elle n'est pas le bien de Dieu.
Il faut dire que la nature spirituelle, oui. On peut regarder la grâce du côté simplement de la nature.
Oui. Tout simplement, la grâce comme une participation formelle à Dieu. C'est la définition même de la grâce. La grâce, participation formelle. Mais participation, la grâce n'est pas Dieu. Or, Dieu seul est bon. Donc, je ne peux appliquer qu'à Dieu la ratio boni comme telle. Je ne peux pas appliquer en dehors de Dieu la ratio boni. Dès que je suis dans l'ordre de la participation, je vais prendre un autre raisonnement. Alors, je vois tout de suite l'objection, parce qu'ici il faut. Saint Paul écrit aux Romains : si par la faute d'un seul, tous les hommes sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don, ce sont par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, abondamment répandu sur tous les hommes. Mais autre est le péché actuel d'Adam, autre le péché originel qui transmet sa postérité. Par conséquent, autre doit être la grâce personnelle propre au Christ et autre celle qu'il possède comme tête de l'Église et qu'il fait dériver sur les hommes. C'est joli comme raisonnement. Et au fond, c'est la participation encore, vous voyez. Alors là, c'est pris d'une autre manière. C'est que c'est nécessairement différent entre ce qui qualifie, ce qui est source et ce qui dérive. Alors, en Adam, réponse de saint Thomas, en Adam, le péché originel, qui est un péché de nature, vient de son péché actuel, lequel est un péché personnel. Alors ça, c'est très important pour saint Thomas, la petite distinction entre peccatum naturae et peccatum personale. Chez lui, en effet, chez Adam, la personne a corrompu la nature. Et par le moyen de cette corruption, le péché du premier homme est passé à ses descendants, chez lesquels la nature corrompue corrompt à son tour la personne. Mais la grâce ne se transmet pas du Christ à nous par le moyen de la nature humaine. Elle nous est communiquée par la seule action personnelle du Christ. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de distinguer dans le Christ une double grâce dont l'une répondrait à la nature et l'autre à la personne, de la même manière que nous distinguons en Adam le péché de nature et le péché de personne. Les deux Adams, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est le jeu sur les deux Adams. Le premier Adam, le péché, le second Adam, la grâce. Et quand il s'agit du péché, on doit distinguer le péché personnel et le péché de nature qui est communiqué. Quand il s'agit de la grâce personnelle et la grâce communiquée est la même. Et la grâce ne se transmet pas du Christ à nous par le moyen de la nature humaine. Elle nous est communiquée par la seule action personnelle du Christ. Alors, voyons maintenant la seconde objection. Les habitus se distinguent par leur acte. Or, la grâce personnelle du Christ est ordonnée à un acte spécial, qui est la sanctification de son âme. Et sa grâce capitale est ordonnée à un autre acte, qui est la sanctification des hommes. C'est donc que la grâce personnelle du Christ est distincte de sa grâce capitale. Réponse. Des actes divers, dont l'un est la raison et la cause de l'autre, ne diversifient pas l'habitus. Or, l'acte de la grâce personnelle, qui rend son sujet formellement saint, est aussi une cause de justification pour les autres. Justification qui relève de la grâce capitale. La diversité que nous rencontrons ici ne suffit donc pas à la diversité d'habitus. Vous voyez le lien que saint Thomas fait ici entre la grâce capitale et la grâce personnelle. La grâce personnelle est la raison et la cause de la grâce capitale. Et donc, c'est la même grâce. Alors, dernière objection. C'est intéressant, parce que ça, c'est une question capitale. Vous comprenez, s'il y avait deux grâces différentes, nous ne serions pas unis au Christ de la même façon. C'est ça qui est important. Si c'est sa grâce personnelle qui est la grâce capitale, la grâce que nous recevons nous met dans la personne du Christ. Et c'est pour ça que le sacrement fait agir in persona Christi. Mais S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas, les sacrements ne pourraient pas nous faire agir in persona Christi. Ce fameux in persona Christi de l'acte du sacerdoce, de la consécration. C'est ça qui me semble intéressant. Ça va très loin, ça. Enfin, si on veut, ça fait comprendre toute la question du corps mystique. Mais Jésus n'a pas deux activités, si vous voulez. Une activité, une sainteté personnelle à l'égard du Père, et puis pour nous, les pauvres petits, hein, alors une sainteté pour nous qui est une sainteté seconde, quoi. Nous sommes toujours des pauvres petits adoptés. Adopté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que être adopté conduit à la filiation personnelle. C'est ça qui est montré là. Oui.
Est-ce que ça rejoint l'unité d'amour à l'égard du Père ?
Oui, exactement. Ça rejoint exactement cette unité. C'est à cause de ça. Fondamentalement, c'est ça. C'est le même amour. Et c'est pour ça que mystiquement, c'est capital, ça, vous voyez ? C'est la question capitale pour montrer le lien qui existe entre nous et le Christ, c'est de voir que la grâce capitale du Christ et la grâce personnelle du Christ sont une grâce. Et donc, ce qui nous est communiqué par la grâce du Christ, en tant qu'il est notre tête, en tant qu'il est notre Père, en tant qu'il nous recrée dans la vie divine, c'est un lien immédiat avec la grâce personnelle du Christ. On est frère du Christ parce qu'il nous communique cela et on vit de sa filiation divine. Mais on vit de la même filiation, autrement on ne serait jamais frère.
On serait inférieur.
Oui, on ne pourrait pas être frère. Parce qu'il n'y aurait pas la même grâce.
Le fait de dire tête, dit et frère, synthétise le fait du supérieur qui est père et le fait de l'égal.
De l'égal. Et c'est là la différence avec les anges. Oui. Et c'est pour ça que là, c'est vraiment la question de l'extension. Oui, il est tête pas de la même façon, parce qu'il y a une extension. Pour nous, cette question de tête nous introduit dans le Christ d'une manière telle que nous devons ses frères.
Les anges ne le sont
pas. Non, les anges ne sont pas frères du Christ. C'est ça qui nous envie de temps en temps. Chose particulière. Alors, troisième objection, comme il a été dit plus haut dans le Christ, on distingue trois genres de grâce, la grâce d'union, la grâce capitale et la grâce personnelle. Mais la grâce personnelle du Christ est différente de sa grâce d'union, elle doit donc être également différente de sa grâce capitale. Ça, c'est le petit résumé. Alors, la grâce personnelle et la grâce capitale ont rapport à une certaine activité. Tandis que la grâce d'union se réfère à l'être personnel, c'est bien évident. C'est pourquoi la grâce personnelle et la grâce capitale appartiennent essentiellement au même habitus, et non la grâce d'union. Pourtant, d'une certaine manière, la grâce personnelle peut être appelée grâce d'union, en ce sens qu'elle crée une certaine convenance à l'union. Et de ce point de vue, la grâce d'union, grâce personnelle et grâce capitale sont essentiellement une seule et même grâce, avec une simple distinction conceptuelle. Toujours cette distinction conceptuelle différente, sola ratione. Mais oui, j'aime pas, parce que concept, c'est du côté de nous. Et ici, c'est ratio, c'est du côté objectif. C'est Occam, ça, hein, la traduction. Pauvre Pereris. Mais il est d'accord avec nous maintenant, puisqu'il est dans la vision béatifique. Alors il voit qu'il était un peu fatigué quand il disait des choses comme ça. Différent de cela rationné. Alors, oui, ça aussi c'est très fort. C'est très fort ça. Vous voyez, de montrer que les trois grâces, d'une certaine manière, sont une grâce. In persona Christi, oui. Ça fait vraiment comprendre le point de vue sacramentel de in persona Christi. Vous agissez in persona Christi, parce que d'une certaine manière, vous pouvez dire que la grâce personnelle est tellement liée à la grâce d'union que c'est d'une certaine manière la même grâce. Et la grâce personnelle et la grâce de tête sont une seule et même grâce. Alors évidemment, il ne faut pas faire de confusion, hein, mais mystitcher, je peux les unir. Puisque le point de vue mystique saute à pieds joints au-delà de la distinction conceptuelle. Quand je suis d'un point de vue mystique, je ne tiens plus compte des distinctions conceptuelles. Je laisse ça pour ceux qui raisonnent. Et je vis. Alors du côté de la vie, du côté de la finalité, je peux dire qu'il y a la même grâce. Alors, revient-il en propre au Christ d'être tête de l'Église ? Le diable est-il la tête de tous les méchants ? L'antéchrist peut-il être appelé tête de tous les méchants ? Ça, c'est la grimace de la tête. Et puis après, on entrera dans la grande question de la science du Christ. Ça, c'est une des choses très très belles de Saint Thomas.